jij staan?
Sadaq Allah al-Azim.
Sadaq Allah al-Azim.
Donc c'est vrai que c'est un petit peu pas évident hein, de gérer comme ça ce direct. Donc on s'excuse auprès des auditrices et auditeurs de ce relais manquement. C'est vrai que Mehdi coupe Qur'an pour éviter de parler dessus.
Voilà, c'est fait.
Donc voilà, Shoukhana Hassan qui est sur la table et qui, ma foi, je pense à commencer puisque je suis parti.
Entre deux, ouais.
Voilà, et donc je vais vous laisser sans plus attendre.
Il n'y a pas de problème.
Avec Shoukhana Hassan, Gaza au centre de nos préoccupations.
Alors, qui parmi vous n'a pas été attristé pendant ces trois semaines d'intenses combats en Palestine, à Gaza? Je pense que vous avez tous été touchés. Si vous avez un cœur, levez la main ceux qui n'ont pas de cœur. Alhamdulillah. Vous avez tous un cœur. C'est bien. Vous allez me dire, est-ce que ça existe un être humain qui n'a pas de cœur? Est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe. Kain et Nami. كاينين ما عندوش عنده الحجر بل الحيوان احسن منه بل هما ضل مي بيان سور qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas de cœur. Ils ont peut-être un cœur biologique, physique, un muscle, une pompe qui transmet le sang, mais vous savez tous que nous parlons du cœur spirituel, le cœur qui renferme justement les nobles sentiments. N'a pas de cœur celui qui n'a pas de pitié, de miséricorde, de clémence. Celui qui n'est pas touché par ce qui s'est passé, ce qui se passe à Gaza. Celui-là, il n'a pas de cœur. Summa qasat qulubuhum min ba'di zalika. Leurs cœurs sont devenus durs. À cause de quoi? À cause de leur égarement, à cause de leurs mauvaises actions. Vous avez vu, quand vous faites des péchés, quand vous éloignez du droit chemin, vous perdez toute notion de miséricorde, d'amour et de pitié. Est-ce que vous avez compris la relation entre eux, la droiture, la rectitude, la piété et la mansuétude, la clémence qui doit exister dans nos cœurs? Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous nous identifions à Dieu à travers ses attributs. Dieu est clément et miséricordieux. Il nous est demandé d'être clément et miséricordieux. Il nous est demandé d'être à son image. Ar-Rahimuna yarhamhumullah. Si vous êtes miséricordieux, Dieu sera miséricordieux envers vous. Mais malheureusement, et il y a des êtres humains sur terre qui sont insensibles à la souffrance de leurs semblables. Pire, il y en a certains qui se réjouissent. Vous entendez? Ils se réjouissent. Leur plaisir est dans le fait que les autres souffrent. Leur plaisir est dans le fait qu'ils torturent ou voient les autres torturer. Vous voulez la preuve? Dans l'histoire. Lorsque les croisés ont envahi une partie du monde musulman, en l'occurrence la Terre Sainte, le Cham, qu'ils appellent le Moyen-Orient, qui a son centre spirituel Jérusalem, Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, la mosquée sainte. Lorsqu'ils ont envahi, conquis la ville de Jérusalem, je ne vous parle pas des massacres qu'ils ont commis bien avant, à Antioche, Antakya, Trablus, Tripoli, Edesse, et toutes ces villes. Je vous parle de ce qu'ils ont fait à Jérusalem. Quand ils ont pris Jérusalem, en l'année 1099, leurs historiens racontent, ce ne sont pas des historiens musulmans, car si c'était des historiens musulmans qui avaient relaté ces événements, on les aurait taxés de quoi? Vous êtes partisans, c'est ça? Vous n'êtes pas... vous n'avez pas une démarche scientifique. Donc leurs historiens racontent, ce sont des témoins oculaires, ils ont vu, ils racontent qu'ils ont massacré à Jérusalem seuls 70 000 personnes. Vous entendez? 70 000 personnes. Il y avait tellement de morts, tellement de sang qui a coulé, que les membres, les corps qui ont été amputés, les bras, les jambes, flottaient est resté en surface. Il a été transporté par les torrents de sang. Les chevaux, leurs pattes sont foncées dans le sang jusqu'aux genoux. Il y avait tellement de corps qu'il n'était plus possible de rester dans la ville, il fallait mettre le feu. La mosquée de l'Aqsa, mosquée du Dôme, le rocher, où se sont réfugiés les innocentes, les femmes, les enfants, les vieillards, a été investi par ces barbares, ces monstres. Et ils n'ont pas eu de rahma, de miséricorde. Leur cœur n'a pas vibré. Vous savez ce que raconte leur historien ? À la fin du massacre, il restait encore des femmes et des enfants. Ils attachaient ces femmes et ces enfants, les mains derrière le dos, les mettaient en rang et ensuite ils les décapitaient. Vous entendez ? Leur couper la tête. Mais il faut le faire pour qu'un être humain conscient, vacciné et majeur, tue un enfant, une femme. Ça peut vous choquer, vous étonner. L'histoire ne fait que se répéter. Vous avez vu les bombardements ? Pendant 3 semaines, les victimes, des femmes, des enfants, des vieillards, des civils, des innocents. Bombardés avec quoi ? Avec des armes conventionnelles et non conventionnelles, disent-ils. Des armes qui ne sont même pas encore sur le marché, tu ne peux pas encore les acheter si tu veux les utiliser. Elles sont réservées à l'élite. Hein, la nano-destruction maintenant. Donc, vous avez tous été touchés, sensibilisés par ce qui s'est passé, ce qui continue encore à se passer aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de ressentir. Faudrait-il encore gérer ses émotions de manière intelligente? Et le gros problème des musulmans, c'est qu'ils sont très émotionnels, voire trop émotionnels. Il est bien d'exprimer ses émotions. Mais faut-il encore les canaliser? Pourquoi? Pour pouvoir justement les convertir en actes, en paroles qui vont éviter que de tels massacres se reproduisent. Ainsi, des réactions intelligentes avec des objectifs à court, moyen et long terme. Pourquoi ? Pour arrêter les effusions de sang. Parce que c'est triste. Hein, il paraît que plus on avance, plus l'être humain se modernise, se civilise. C'est ça ? Et si vous faites un bilan macabre, plus on avance, plus l'être humain détruit son semblable. Vous n'avez pas remarqué ? Plus on avance, plus on tue et on massacre. Et plus on avance et on développe les armes, la technologie pour tuer le maximum de personnes dans le minimum de temps. Au lieu d'investir dans tout ce qui est nécessaire pour sauvegarder la vie des êtres humains, alléger la souffrance de ceux qui souffrent, on investit des sommes colossales. On ne peut même pas, nous, avec notre entendement, comprendre ces chiffres. Au lieu d'investir dans ce qui est utile pour l'humanité, nous investissons dans ce qui détruit l'humanité. Au nom de quoi ? Au nom de la loi de la jungle. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Il n'y a pas de place sur Terre pour les faibles. C'est la sélection naturelle. Quelle philosophie satanique et diabolique. Ainsi, il faut savoir gérer ses émotions. Regardez, lorsque le dernier royaume de Grenade, qui avait à sa tête un pseudo-gouverneur, un pseudo-roi, dans les livres d'histoire occidentaux, on l'appelle Boabdil. Abdullah Sarir, lorsqu'il signe la reddition, hein, on se rend, il pleure, il verse des larmes quand il voit l'Alhambra, Al-Hamra, hein, son château, sa résidence qui lui glisse entre les mains. verse des larmes. C'est tout à fait logique et normal. Et sa mère, Aïcha, le reprend en lui disant, pleure comme une femme un royaume que tu n'as pas su préserver comme un homme. Pleure comme une femme un royaume que tu n'as pas su protéger, préserver comme un homme. La femme est connue pour être un être très sensible. D'ailleurs, qui va à la guerre? Ce sont les hommes. Qui tue et massacre? Les hommes. La femme donne la vie et elle la préserve. Et elle fait tout pour éviter de porter atteinte aux autres, parce qu'elle sait, elle connaît la valeur de la vie. Ainsi, elle lui pleure comme une femme, un royaume que tu n'as pas su préserver comme un homme. Tes larmes ne servent à rien. Il fallait agir avant ce jour-ci. Et c'est notre gros défaut, on ne tire pas des leçons de l'histoire. Pour la simple et unique raison, c'est que nous ignorons l'histoire. Nous ignorons notre histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que un tiers du Coran est fait d'histoire. Vous le savez, si vous l'avez lu, vous avez dû le remarquer. Un tiers du Coran est fait d'histoire. Et si vous prenez le Coran, 600 pages, 200 pages, ce sont des histoires. L'histoire des prophètes et de leur peuple réciproque, l'histoire des peuples avant l'avènement de l'islam, l'histoire du vivant du prophète alayhi salam, des passages, bref. Et sont des histoires qui reviennent de manière récurrente dans presque toutes les sourates. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de nous rappeler que nous ne pouvons pas vivre le présent de manière digne et nous projeter dans un avenir digne si nous ne tirons pas des leçons de l'histoire. La civilisation n'a pas commencé aujourd'hui avec nous. Nous ne sommes que le fruit de notre passé. Et si on ne sait pas se retourner, nous tourner vers l'arrière pour lire dans les pages de l'histoire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a fait que les êtres humains ont avancé ou reculé, nous allons recommettre les mêmes erreurs. Vous entendez? Nous allons perdre notre temps. Au lieu de nous baser sur l'existant et le développer, nous allons réinventer l'eau chaude qui existe déjà et la roue. Ainsi, on fait du surplace au lieu de faire des bons. Donc, une de nos faiblesses intellectuel, c'est que nous ignorons notre histoire. Si bien que nous avons du mal à analyser le présent. Vous entendez? Parce qu'il y a une vérité, une règle, un théorème qui dit l'histoire se répète. L'histoire se répète. Ainsi, pour comprendre le présent et l'analyser comme il se doit, nous devons à tout prix nous retourner vers l'arrière, tirer des leçons du passé pour ne pas nous tromper dans l'analyse, donc pour ne pas prendre des résolutions, des décisions qui sont fausses. Sinon, nous allons tomber dans les pièges dans lesquels sont tombés nos prédécesseurs. C'est pour cela, regardez. Celui qui va réveiller la conscience des musulmans et qui va les responsabiliser face au drame palestinien qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque vous savez que c'est le pape Urbain II en 1096 de Clermont-Ferrand qui appelle à la croisade, une guerre de religion qui a pour objectif de quoi? D'exterminer une communauté dans un lieu défini. La communauté musulmane, la communauté païenne d'après eux, dans un lieu précis qui s'appelle la Terre Sainte, qui est effectivement une Terre Sainte pour les chrétiens de l'époque et les chrétiens d'aujourd'hui. Jamais les musulmans n'ont remis en question la sainteté puisque nous croyons nous-mêmes que Isa, Jésus, alayhi salam, est né là-bas et qu'il a vécu là-bas. Ainsi, cette terre-là a une dimension spirituelle, elle a une sacralité pour les chrétiens, de même qu'elle en a une pour nous, les musulmans, puisque c'est notre troisième lieu saint, première mosquée vers laquelle nous nous sommes dirigés dans nos prières. Celui qui accomplit une prière dans cette mosquée à Jérusalem sera récompensé comme s'il avait accompli 500 prières, etc., etc. Ainsi, ce pape appelle à une guerre de religion contre les fidèles d'une autre religion qui s'appelle l'islam. Au nom de quoi? Au nom d'une propagande qui est fausse. On a trompé le public en diffusant des informations erronées. Ainsi, on a dit à l'époque, dans les médias, que les musulmans de Palestine possédaient des armes biologiques. Non. Pardon. On a dit à l'époque que les musulmans de Palestine empêchaient les pèlerins chrétiens de se rendre à Jérusalem et qu'ils avaient bafoué l'église de la Nativité à Bethléem. Une rumeur, une propagande qui avait pour objectif d'attiser les foules. Contre qui? Contre eux? La communauté musulmane. Et ça a marché. Ça a marché. On parle de plus d'un million de croisés lors de la première croisade, ce qu'on appelle la croisade des pauvres, conduite par Bernard Lhermitte. La croisade des pauvres, des indigents. Il y avait des problèmes économiques en Europe, il y avait beaucoup de pauvreté. On les a fait rêver en leur disant l'Eldorado. La conquête du monde musulman sera pour vous une aubaine au niveau matériel. Et c'est vrai, le monde musulman était le monde civilisé, le monde où il y avait une certaine opulence. Ils n'ont pas pu atteindre le paradis. Ils sont fait tailler en pièces par les armées musulmanes seljoukides d'Anatolie, la Turquie actuelle. Mais vient la vraie armée, celle des barons, des seigneurs, des gens aguerris. Ils ont l'habitude de faire la guerre, ces gens-là. Et eux, ils vont arriver à destination. Et sur leur route, ils n'hésiteront pas, comme un bulldozer, à écraser tout ce qu'ils ont sur leur passage. Regardez, subhanallah, comment déjà à l'époque on utilisait la propagande. Pourquoi? Pour jouer avec les foules. Vous ne pouvez pas savoir la force et l'importance de la désinformation, de la propagande. Mais qu'est-ce qui a fait une des forces des nazis? C'est bien ça, non? Comment il s'appelle responsable de la propagande nazie? Goebbels. C'est incroyable, vous pouvez transformer la vérité en mensonge. D'ailleurs, ils le disent, mentez, 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 jusqu'à ce que vous croyez vous-même que c'est une vérité. Et plus le mensonge est grand, plus les gens vont le gober. Alors que les musulmans n'ont jamais empêché les chrétiens de faire leur pèlerinage. La preuve, lorsque Salah Din, en 1187, va reprendre Jérusalem à ses croisés, il leur autorise à faire le pèlerinage. Il leur octroie la vie sauve déjà. Vous pouvez quitter Jérusalem si vous voulez quitter Jérusalem, moyennant une rançon, en fonction de vos ressources, en fonction de votre niveau social. Et les petites gens, les pauvres qui n'avaient pas les moyens, Salah Din lui-même payait la rançon. Regardez comment Salah ad-Din avait un cœur. Et ses généraux vont le suivre. Ils vont verser les rançons de ceux qui n'avaient pas les moyens. Les femmes qui ont perdu leur mari à la bataille de Hattin 2 mois auparavant, au mois de juillet, vont venir pleurer auprès de Salah ad-Din en disant « Nous n'avons pas les moyens de payer une rançon puisque tu as tué nos maris il y a à peine 2 mois. » Et Salah ad-Din va verser des larmes et il va verser sa rançon pour ces personnes-là. Vous avez vu la différence entre ceux qui ont un cœur et ceux qui n'en ont pas? Et lorsque Richard Cœur de Lion, juste après que Salah ad-Din ait repris Jérusalem, et les autres rois, c'est la troisième croisade, la croisade des rois. Dans cette croisade, il y avait 3 rois. Le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, le roi d'Allemagne, Frédéric, Guillaume, et les rois de France, Frédéric. Et plus de 250 000 hommes armés jusqu'aux dents, bien entraînés. Lorsqu'ils débarquent en Palestine, je ne vous parle pas des massacres, et surtout le massacre de Akka, la ville d'Acre, qui va subir un siège pendant 2 ans. Vous entendez? Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, les sièges, les embargos, les... 2 ans de siège. Acre, c'est une ville portuaire, elle a un port. Donc, sur terre, l'embargo, et l'embargo sur mer, il manquait le ciel. À l'époque, ils n'avaient pas encore d'avion. Ma main coupée, s'ils avaient les moyens, ils auraient fait l'embargo céleste, puisque Salah ad-Din arrivait quand même à communiquer avec les habitants d'Acre. Avec quoi? Avec les pigeons voyageurs. Et Salah ad-Din ne cessait de dire aux assiégés, continuez, battez-vous, ne vous rendez pas, car si vous vous rendez, vous signez votre arrêt de mort. Moi, de l'extérieur, je fais tout mon possible. Pourquoi? Pour lever le siège. Une armée de, non pas 250 000, car les 250 000, ce sont les soldats qui sont venus d'Europe, plus les 250 000 chrétiens qui sont là depuis des décennies, ceux à qui Salah ad-Din a donné la vie sauve lors de la prise de Jérusalem, moyennant une rançon. Et c'est ce que lui reprocheront certains de ses conseillers, en lui disant, si ces gens-là, tu leur donnes la vie sauve, dans quelques mois, dans quelques années, ils vont reprendre des armes contre nous. Et Salah ad-Din avait horreur du sang. Il ne voulait pas verser le sang. Ne savez-vous pas qu'il prenait avec lui ses enfants qui étaient adolescents pour les préparer aux futures responsabilités qu'ils allaient endosser? Et un jour, un de ses enfants, qui avait 13 ans, lui a dit, « Père, est-ce que je peux exécuter un prisonnier ?» Et il s'est retourné, il a regardé son fils et il lui a dit en colère, « Dieu ne nous a pas créés pour tuer les gens. » Regardez, un prisonnier de guerre, Salah ad-Din, veut enseigner, il enseigne à son fils que son objectif ce n'est pas de tuer les autres. Il faut éviter que le sang coule. Si on peut résoudre nos problèmes de manière pacifique, on le fait. Mais Salah ad-Din était tenu malgré lui. À quoi? À prendre les armes, parce que ceux qui étaient en face ne comprenaient pas le langage du dialogue, de la paix. La preuve, un siège de 2 ans, plus de 500 000 soldats, Salah ad-Din, avec ce qui lui reste de son armée, puisque ça fait 14 ans qu'il est en campagne, 14 ans de campagne sans cesse. Après la bataille de Hattin, ses soldats sont fatigués et il ne lui reste plus que 12 000 hommes. Et pendant 2 ans, ça va être des combats incessants entre Richard Cœur de Lion et ses dizaines de milliers de soldats et Salah ad-Din avec 12 000 hommes. Et effectivement, Salah ad-Din ne pourra pas faire pression sur Richard Cœur de Lion pour lever le siège de la ville d'Acre, Et les habitants d'Acre vont finir par quoi ? Par se rendre. Mais avant de se rendre, ils signent des traités, des accords. Et Richard Cœur de Lion refuse. Il dit, vous voulez vous rendre maintenant parce que vous n'avez plus les moyens de vous battre ? Les musulmans d'Acre lui disent, bah écoute, si tu ne veux pas qu'on signe un traité, sache que tu n'auras pas la ville avant que tu passes sur nos corps, mais avant qu'un parmi nous ne meure, on en tuera 10 parmi vous puisqu'on n'a plus rien à perdre. Et là, Richard Cœur de Lion a compris que, avec ces gens-là, qui n'ont pas peur de la mort, ces kamikazes-là, il valait mieux traiter. Il valait mieux négocier. Et il a négocié avec eux. Et ils lui ont demandé la vie sauve. Deuxièmement, ils lui ont demandé de quitter la ville. Et qu'est-ce que va faire Richard Cœur de Lion ? Il signe. Vous aurez la vie sauve, vous prenez vos biens et vous partez, mais vous laissez vos armes. Salah ad-Din envoie ses pigeons voyageurs. Ne signez pas. Ne signez pas. Parce que Salah ad-Din envoyait ses espions entrer en contact avec les religieux de l'armée de Richard Cœur de Lion pour qu'il ait de leur part une promesse de respect du traité. Et ils lui ont répondu en disant, nous ne pouvons pas te promettre que nos rois vont respecter leur engagement parce que ce sont des gens sans foi ni loi. Et Salah ad-Din prévient les habitants d'Acre en leur disant ne vous rendez pas car il ne va pas respecter son engagement. Mais ils se sont quand même rendus. Et vous savez ce qui va se passer ? Ils vont tous être passés au fil de l'épée. Tous massacrés. Tous les hommes vont être exécutés en haut d'une colline. Richard Cœur de Lion est assis sur son trône et pendant plusieurs jours, il se fait un malin plaisir d'assister à quoi ? À la décapitation de milliers d'hommes. Et Salah ad-Din et ses hommes voient ça de loin. Ils sont incapables de sauver leurs frères. Vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui n'ont pas de cœur sur terre. Ils sont prêts à tuer et à massacrer des milliers de personnes, mais sans que ça les empêche de dormir. Mieux, ils y trouvent du plaisir. Vous imaginez le mec sur son trône, il est là, et des exécutions par centaines, par milliers, pendant plusieurs jours. Je veux dire, la moindre des choses, c'est exécute qu'il soit, ordonne qu'il soit exécuté, mais va ailleurs. Non, il faut qu'il assiste au spectacle. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, les Romains, dans leurs arènes ? Non ? Du plaisir à quoi ? À voir des gens qui s'entretuent, malgré eux, qui les forcent à s'entretuer. Et il faut absolument qu'il y ait un mort. Hein. Il est hors de question que... Ouais. Pire, ils sont allés jusqu'à quoi ? Jusqu'à lâcher dans les arènes des animaux féroces. Pourquoi ? Pour qu'ils... Et les gens regardent et applaudissent. Et ça les excite. Et ils achètent des billets d'entrée. Pour aller voir quoi ? Pour aller voir, non pas un combat entre un homme et un taureau. Ouais. Vous voyez que ça continue ? On a remplacé les hommes par des animaux. Vous voyez la corrida ? Un homme et un taureau, avant c'était un homme et un homme. Ou un homme et un animal, mais l'homme, il n'était pas armé. Ou c'était un combat illégal. Subhanallah, c'est incroyable. Hein ? Alors qu'on n'a jamais connu ça dans la civilisation musulmane. On n'a jamais connu ça. Les combats de cirque, là. Les combattre les animaux. C'est haram, le prophète alayhi salam l'interdit, les textes sont là. Tu ne peux pas prendre un animal comme cible. Alors prendre un être humain comme cible, une population comme cible, ça n'a pas de sens. Si, sauf pour celui qui n'a pas de cœur ou qui a un cœur plus dur que la pierre. Salah ad-Din va finir par signer un traité. Oui, je disais, vous avez vu Richard Cœur de Lion ? Il n'a pas respecté son engagement. Il a signé, une fois qu'ils ont baissé les armes, il les a tous massacrés. Donc, il ne cherchait pas la paix. Vous entendez ? Il ne cherche pas à trouver une solution pacifique. Tout ce qui l'intéresse, c'est coloniser, prendre les terres et exterminer la population. Et s'il ne peut pas l'exterminer, l'expulser. Parce qu'il est gourmand. Son royaume d'Angleterre ne lui suffit pas. Il faut qu'il aille là-bas, au loin, prendre une terre qui ne lui appartient pas. Au nom de quoi ? Au nom d'une idéologie bête et stupide. Mais il est tenu par la force de signer une trêve avec Salah Hussein. Alors que Salah Hussein est en position de faiblesse. À la bataille de Arsou, Salah Hussein perd 2/3 de son armée. Sous 7000 hommes, il perd dans une bataille. Le coup dur, il lui reste plus que 5000 soldats, fatigués, épuisés. Et je ne vous dis pas tous les SMS, les mails qu'il a envoyés Salah Hussein à tous les princes musulmans, même au calife de Bagdad. Mais ils sont occupés. Hein. Ils sont très occupés. Ils écoutent de la musique, ils dansent, ils chantent, ils surfent sur Internet, ouais. Ils jouent à la Wii, la Play. Ouais. Ils regardent des films à longueur de journée, ils sont dans les stades de foot, ils s'amusent. Eh oui, pendant que Salah Hussein est en train de se faire massacrer avec ses hommes. Les personnes n'entendent aussi. Ils entendent, mais ils font le sourd. Personne ne veut répondre. Personne ne veut réagir. Et Salah Hussein sait très bien que l'objectif de Richard Cœur de Lion, c'est de prendre Jérusalem. Jérusalem qu'il avait récupéré, Salah Hussein. Alors Salah Hussein se réfugie dans Jérusalem. Il renforce les murailles. Et c'est le siège de Jérusalem. Par Richard Cœur de Lion. Mais Richard Cœur de Lion a des informations que Salah Hussein est à l'intérieur. Et il connaît Salah Hussein. Ça fait 2 ans qu'ils sont. Ils font du corps à corps, les deux armées. Et il sait très bien qu'il n'arrivera jamais à prendre Jérusalem si Salah Hussein est à l'intérieur. Et alhamdoulilah, par la volonté de Dieu, il y a un coup d'état qui est fomenté en Angleterre. Hein, des gens qui veulent lui prendre le pouvoir. Et il est malade, Richard Cœur de Lion, il tombe malade. Vous savez, quand il y a des milliers de morts, on n'a pas le temps de les enterrer. Donc il y a automatiquement des maladies, des épidémies. Et ce qui est terrible, vous savez, c'est quoi ? C'est que lorsque Richard Cœur de Lion tombe malade, Salah Hussein lui envoie ses médecins pour le soigner. Excusez-moi la parenthèse. Si c'était moi, Salah Hussein, je renvoyais un médecin, puis j'en dis que tu lui feras une piqûre, mais pas la bonne. Ok ? Ouais. Comme ça, au moins, on se débarrasse de cet ennemi coriace. Ça fait 2 ans hein, que Richard Cœur de Lion, avec ses centaines de milliers, il prend la tête à Salah Hussein. Et il tombe malade, et Salah Hussein lui envoie ses médecins le soigner. Comment vous pouvez expliquer ça ? C'est un chevalier, vous entendez ? C'est un chevalier. C'est un homme qui a une éthique. Il y a des blessés ? Alors on va les soigner. Ils ne peuvent pas soigner ? On va leur envoyer nos médecins les soigner. C'est un malade, c'est un blessé. Même l'ennemi, subhanallah, en période de conflit, Salah Hussein tient compte de quoi ? Des règles de la guerre. Il y a des conventions qui ont été signées. À l'époque, c'était non dit, mais c'était un droit coutumier. Les autres, ils ne respectaient pas, hein. Ni la convention de Genève, ni celle de. Rien. Mais Salah Hussein allait jusqu'au bout de ses convictions, le respect. Alors, il est évident que Richard Cœur de Lion, face à un homme comme Salah Hussein, bon. Il va réagir, il est touché. Il va se terminer avec une trêve. Et bien entendu, Richard Cœur de Lion, qu'est-ce qu'il veut lui ? Il veut Jérusalem, je ne suis pas venu pour rien. Ça fait 2 ans que je galère. J'ai fait des milliers de kilomètres, j'ai laissé mon royaume. et tu veux que je rentre chez moi sans Jérusalem ? Alors Hardy lui dit, écoute, on discute de tout sauf de ça. Parle pas de Jérusalem. Il y a des droits fondamentaux. On ne revient pas sur ces vérités. Et c'est un bras de fer. Et ça se termine avec quoi ? Avec une victoire politique. Après la victoire militaire de Salah ad-Din, puisque l'armée de Richard Cœur de Lion est 100 fois plus nombreuse que celle de Salah ad-Din. Après 2 ans d'embargo, après des milliers de morts parmi les civils musulmans, Richard Cœur de Lion n'a pas atteint son objectif. La prise de Jérusalem et la disparition de Salah ad-Din. Et il est obligé de signer une trêve de 3 ans et 3 mois qui stipule que tu rentres chez toi, deuxièmement, tu gardes les villes côtières que tu as prises, troisièmement, Jérusalem c'est la nôtre, mais vous chrétiens, vous avez un droit de quoi ? De visite. Et Richard Cœur de Lion va aller visiter Jérusalem. Dans le normal. Les musulmans n'avaient pas de problème avec les chrétiens pacifiques qui veulent visiter Jérusalem, accomplir leur pèlerinage. Mais ils avaient des problèmes avec les fanatiques chrétiens, les croisés, les intégristes fondamentalistes qui sont venus terroriser la population musulmane et chrétienne et juive du monde musulman de cette région. Vous entendez ? Des étrangers qui sont venus s'installer dans une terre qui n'est pas la leur, non pas en tant qu'hôtes ou invités ou touristes, mais en tant que conquérants. Et Richard va rentrer chez lui et Salah ad-Din va continuer son travail et va mourir quelques mois plus tard. Mais vous savez ce qui est le plus terrible ? C'est que par la suite, cette Jérusalem va être offerte sur un plateau aux croisés. Vous savez par qui ? Par un descendant de Salah ad-Din, un arrière petit-fils, El-Kamil. Parce qu'il avait peur de perdre ses privilèges en Égypte. Et lorsque le roi d'Allemagne, Frédéric II, qui était considéré comme un apostat par le pape, hein, il a excommunié Kaffara, le pape, parce que c'était quelqu'un de scientifique, d'accord, et malgré ça il est parti à Jérusalem avec, vous savez combien, avec 500 chevaliers. Et ben le sultan musulman va quoi ? Va signer un traité avec Frédéric dans lequel il stipulait qu'il allait lui offrir Jérusalem sans coup férir. Frédéric, quand il entre dans Jérusalem avec ses 500 chevaliers sans verser une goutte de sang, il est reçu avec des tomates par qui ? Par les religieux chrétiens de Jérusalem, parce que c'est un murtad, c'est un kafir, un renégat, un apostat. Le pape il l'a viré. Il leur dit, comment, je suis un signe de Dieu, ne voyez-vous pas que Jérusalem revient dans le berceau du christianisme grâce à moi? Et le pape a dû après réviser sa bulle papale dans laquelle il était stipulé qu'il était un apostat. Il l'a adopté à nouveau, il l'a réintégré dans le giron du christianisme, parce qu'il a fait une bonne action qui est la reconquête de Jérusalem. Et c'est ce Frédéric qui va vivre pendant un moment dans le monde musulman qui va être impressionné par le degré de civilisation du monde musulman. Il va revenir en Allemagne avec des livres, avec la langue arabe. Dans les croisades, il n'y a pas eu du mal, hein, il y a eu aussi du bien. C'est que les princes chrétiens, les chrétiens qui vivaient dans le monde musulman, intégrer la culture musulmane. De fait, parce que les musulmans étaient supérieurs, vous savez, ils étaient civilisés. Donc les autres étaient éblouis par la beauté de cette civilisation musulmane, par le savoir-vivre des musulmans. Il y avait des échanges. Vous ne pouvez pas savoir. En fait, il n'y a pas de problème entre les peuples. Généralement, ce sont les dirigeants qui, malheureusement, utilisent les peuples pour atteindre des quoi, des objectifs. Bref, vous savez combien d'années il a fallu pour que les envahisseurs quittent, bon gré mal gré, la Terre Sainte de Palestine, au total, entre le premier jour où ils ont pris Jérusalem et le dernier jour où ils sont partis, au total, ça a pris 200 ans. Vous entendez ? 200 années. Vous savez combien de 200 années ? 6, 7 générations. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que la question palestinienne aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord que ça remonte presque maintenant à un siècle. Un siècle, La création de l'État d'Israël, c'est 1948. Les 60 ans ont été fêtés, mais la problématique remonte à bien avant. Donc 100 ans. Donc si on veut faire du plagiat historique, il manque 100 ans. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que certaines personnes qui sont pessimistes déjà, ils disent on ne peut rien faire, on ne pourra rien changer. D'accord ? Donc ça, c'est les défaitistes, presque les lâches. Ouais. On leur dit c'est faux. Si nos arrière-grands-parents pensaient comme vous, jamais cette terre n'aurait retrouvé le bonheur. Le premier, vous savez, qui a décidé de combattre l'injustice en Palestine, c'est le gouverneur d'une région, la région de Mawsil, c'est en Irak. Il s'appelle Maudoud. 14 ans après le fameux massacre qui a eu lieu à Jérusalem, 70 000 morts. Les musulmans ont mis du temps pour se réveiller. Ça a été un choc, vous entendez ? Ils sont restés dans un coma qui a duré des années. C'est Maudoud. Ben Allah, ce Maudoud, rahimahullah, vous savez comment il va finir ? Assassiné. Dans la mosquée de Damas, le vendredi, au moment de la prière de Jumu'a. Par qui ? Par un musulman. Astaghfirullah. Un pseudo-musulman. Vous entendez ? Il y a dans cette communauté des traîtres, des vendus, des collabos. Bien sûr qu'il y en a. Maudoud va être assassiné par qui ? Par un membre d'une secte de l'époque qui s'appelle les assassins, pardon, en arabe on dit al-hashashoun. En français ça donnait les assassins. Pourquoi s'appelle-t-il comme ça ? Parce que celui qui a fondé cette secte, c'est un homme qui s'appelle Hassan ibn Sabbah, c'est une secte chiite que les chiites eux-mêmes reconnaissent comme étant hétérodoxe. Allez, à côté de la plaque. D'accord ? Et ils avaient des forteresses, et en particulier une forteresse qu'ils connaissent, c'est la forteresse d'Alamout, en Iran. Et c'est là où ils fanatisaient ces hommes. C'était un gourou. Et son objectif, c'était quoi ? C'était d'être au service de qui veut bien allonger la somme qu'ils demandaient. Et leur travail, c'était de quoi ? C'était de tuer. De tuer. Mais comment donc ? C'est pas évident de tuer certaines personnes. Alors, ils faisaient prendre à ces ouailles un produit, de l'herbe, de la drogue, le hashish. Ils les droguaient avant de partir en mission. Ils ont tué Maudoud. Ils ont tué. Vous savez qui ils ont essayé de tuer? Ils ont essayé de tuer Salah Din à deux reprises. Première fois, ils l'ont blessé. Et la seconde fois, ils ont réussi à pénétrer dans sa tente et à le menacer. Mieux, ils sont allés jusqu'à assassiner alors qu'ils étaient à la solde de quiconque. Les chrétiens allaient payer pour tuer les moujahidines, d'accord? Les Fatimides en Égypte, une dynastie chiite qui a comploté contre le monde musulman avec les croisés, vous entendez? Qui n'ont pas hésité à plusieurs reprises, pas seulement lorsque les croisés sont arrivés. Quand les croisés sont arrivés, tout de suite les Fatimides sont allés vers eux pour faire signer un pacte. Vous savez lequel? Vous prenez la moitié de la Palestine, le nord de la Palestine du Liban, le Cham, ça c'est pour vous, et pour nous les Fatimides, on garde le sud avec Jérusalem et le sud du Cham. C'était le deal entre cette dynastie fatimide chiite égarée qu'il y avait en Égypte et les croisés. Et les croisés ont refusé avec eux de signer ce pacte parce qu'ils voulaient Jérusalem. Bah, par la suite, ouvrez bien vos oreilles, lorsque Nourdin Mahmoud al-Shahid va envoyer Salah Din et son oncle Asaduddin Shirakou en Égypte pour remettre de l'ordre, vous savez ce que vont faire les Fatimides? Ils vont entrer en contact avec les croisés contre Salah Din, contre Nourdin Mahmoud al-Shahid. Ça va? Est-ce que vous faites le rapprochement avec la situation actuelle? Oui? Bien, je dois... C'est clair ou c'est pas clair? L'histoire se répète. Si vous connaissez l'histoire, vous allez comprendre ce qui se passe et vous allez agir de manière intelligente et vous n'allez pas perdre votre temps. Ces assassins, les hachachines, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont à la solde de ceux qui veulent la peau de ceux qui combattent pour la bonne cause, et une fois ils vont même tuer un roi chrétien. Pourquoi? Parce que il avait fait une trêve avec Salah Din. Ils n'ont pas de morale, ils n'ont qu'un objectif, c'est l'argent et la haine de ceux qui veulent libérer la Palestine. Bref, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des gens qui sont défaitistes, qui sont pessimistes et qui disent on peut rien faire. Si Maoudoud avait dit ça, si Imaduddin Zanki, celui qui va remplacer Maoudoud, avait dit la même chose, il est mort martyr, Imaduddin Zanki. Si Nourdin Mahmoud Shahid, qui remplace le fils d'Imaduddin Zanki, Nourdin Mahmoud Shahid, qui avait qu'un rêve, vous savez lequel? C'est de prier à Jérusalem. La preuve, il a ordonné à des ébénistes, des charpentiers, des ébénistes, de confectionner un minbar, de faire un minbar. Un minbar qui va bientôt être transporté à Jérusalem, dans la mosquée de Jérusalem, pour y faire la khutbah du vendredi. Parce que Nourdin Mahmoud Shahid avait comme projet de quoi? De libérer Jérusalem. Je vais y arriver, a-t-il dit. Et il a déjà préparé le minbar, mais il est mort. Voilà, c'est tout, c'est son destin, et Dieu le récompense en fonction de son intention. Et c'est son élève spirituel, Salah Din Ayyubi, qui va prendre Jérusalem. Et vous savez ce qu'il fait quand il prend Jérusalem? Le minbar de mon père spirituel, Nourdin Mahmoud Shahid. Et on va le ramener en urgence, où ça? À Jérusalem, dans la mosquée. Et il va y rester jusqu'en 1969, lorsque un sioniste du Canada, qui est parti là-bas en Palestine, a mis le feu à la mosquée de Jérusalem, en 1969. Et bien entendu, il a été arrêté, il a été jugé comme étant quelqu'un de quoi? Déséquilibré. Déséquilibré. Et il mange très bien, il dort très bien, hein. Toujours comme ça se termine. Ouais. Vous avez vu Nourdine Mahmoud Chahid? Il dit pas, oh, à quoi ça va servir? Il fait le minbar, il n'a même pas encore Jérusalem, il prépare le minbar. Pourquoi? Parce qu'il est sûr, il est convaincu. Il sait que l'injustice ne peut pas durer. Vous entendez? Une injustice n'est jamais éternelle. Une injustice est limitée dans le temps. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne crois pas que Dieu n'est pas au courant de ce que font les injustes. إِنَّ اللَّهَ يَمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ. Dieu, il laisse faire, mais il n'oublie pas. Quand il agit, ça fait mal. Ainsi, première des choses que nous devons faire, c'est nous cultiver. Vous entendez? Avoir la connaissance suffisante pour bien comprendre la question afin d'apporter les bonnes analyses et les bonnes réponses aux questions qu'on veut nous poser. Parce que nous sommes tous censés être des avocats d'une cause juste, qui est la cause palestinienne. Car, somme toute, qu'est-ce que demandent les Palestiniens? Le droit d'exister, le droit de vivre. Tout ça, chez eux. C'est tout ce qu'ils demandent. Jamais les Palestiniens n'ont demandé l'extermination d'un peuple. Demandez-leur. Ils disent, non. Nous, on n'a pas que ça à faire, nous, exterminer les autres. On veut vivre. On veut vivre avec nos femmes, nos enfants, on veut apprécier la vie. Nous sommes des êtres humains. Un être humain normalement constitué aime la vie. Nous aimons la vie. Nous voulons vivre, mais les autres nous empêchent de vivre. Donc, pour être un bon avocat, il faut faire de bonnes études. D'accord. Donc, Allah ibarakoum. Utilisez les moyens modernes de manière intelligente. Allah, ça me fait mal au cœur quand je vois nos jeunes qui ont tous un abonnement internet illimité, 29,90€, et qui, au lieu d'en faire bon usage, passent leur temps à quoi? Sur internet, les chats, c'est ça, et discutent. Wallahi, je ne sais pas comment vous trouvez encore assez du temps, des forces pour discuter pendant des heures sans vous lasser. Normalement, après une demi-heure, une heure, tu n'as plus rien à dire à quelqu'un. Je ne comprends pas ces jeunes. Ils sont au téléphone pendant une heure avec la personne. Attendez, la personne qu'ils ont vue la journée, hein. Ah oui, ils étaient avec elle toute la journée à l'école. Et le soir, ils continuent, une demi-heure, une heure. Qu'est-ce que vous vous trouvez encore à dire? Moi, je suis convaincu que ça ne doit pas être très catholique, très islamique. Ce que vous dites. Il doit y avoir plein de choses haram quand même. Parce que c'est pas possible que tu parles pendant une heure et demie de tout, sans parler de n'importe quoi. Le téléphone, c'est un outil. Tu l'utilises, tu le ranges. C'est pour passer une information, un message. Point final. C'est pas bon pour votre santé. Il y a des ondes. Vous allez vous plaindre dans 10, 15, 20 ans. J'ai mal à la tête, les cancers du cerveau. C'est vite fait, bien fait, tu le ranges. C'est pas un jouet, c'est une bombe à retardement pour votre santé physique, mais aussi morale et intellectuelle. Tu passes 2 heures à parler de n'importe quoi au téléphone, c'est 2 heures de moins pour t'instruire. Ou tout simplement pour dormir, pour être en forme le lendemain, pour bien bosser à l'école, à la fac. Même chose pour Internet. Au lieu d'utiliser pour la recherche de l'information, pour l'étude, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Donc les chats, et après les jeux. Mais des jeux sans fin. Allah, il y a un jeune, une fois, il m'a dit, tu sais, t'es juste, j'arrivais à le craquer, je suis arrivé au 7e monde, le dernier. C'était impossible. Il n'y a personne qui a jamais réussi. Anna, j'ai réussi. Exploit. Mashallah. Trop puissant quand même. Il a battu un record, il a atteint le 7e monde. Et regardez les jeux, comment ils sont pervers. Il y a des jeunes qui sont sur des jeux, et de toute façon, pendant une heure, ils tirent. Il tue. C'est, vous appelez ça un jeu? tu tires pendant des heures, tu tires. En plus, c'est tellement bien fait, c'est tellement mal fait maintenant que ça explose, il y a du sang, il y a des bras dans tous les sens. Et il est content. En fait, c'est une manière indirecte de banaliser la mort. Vous entendez? Si bien que le mec, il regarde des infos, il voit des gens qui se font tuer, ça lui fait rien du tout. Mais il en a tué beaucoup plus, il y a 10 minutes. Oui, il ne fait plus distinction entre eux. La réalité et le virtuel. C'est très, très, très dangereux. Internet, c'est un moyen pour atteindre un objectif, qui est l'information, la circulation de l'information, la transmission de l'information. Point final! Allez faire des jeux plus ludiques, plus instructifs, plus sains pour votre santé. Et le livre reste incontournable. Allah ibar fikoum. Iqra, lis. C'est Moshe Dayan qui avait dit, un général de l'armée juive, partie de ceux qui ont conquis Jérusalem. Les Arabes ne lisent pas. Et quand ils lisent, ils ne comprennent pas. Et quand ils comprennent, ils oublient. Godamer, peu importe. L'un ou l'autre, il faut qu'on réagisse. Ils ne lisent pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je me mets à la lecture. Pas parce qu'il l'a dit, hein, parce que Dieu l'a dit, Iqra, lis. Vous avez compris, les jeunes? Lisez! Avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, Nourdin Mahmoud al-Shahid, le père spirituel, l'éducateur de Salah al-Din. Il n'y a pas de Salah al-Din sans Nourdin Mahmoud al-Shahid. Un jour, ses généraux lui ont fait une remarque. Ils lui ont dit, le budget de l'éducation, de l'information est trop élevé, trop important. On est en période de guerre. Et tu dépenses beaucoup d'argent pour les écoles, les universités, les mosquées, les imams, les étudiants, les salaires de tous ces gens qui, quoi, qui ne sont pas au champ de bataille, mais qui sont dans les mosquées, dans les écoles. Tu devrais diminuer ce budget-là, le budget de l'éducation nationale. Pourquoi? Pour renflouer les caisses de la défense. Quelle est la réponse de Nourdin Mahmoud al-Shahid? Regardez comment il voyait loin. Il dit, sachez que les soldats combattent l'ennemi la journée avec des flèches. Ils tirent des flèches, des lances. Et ces gens-là, en parlant des imams, des étudiants, des savants, ils combattent l'ennemi la nuit en tirant des flèches qui, elles, ne manquent pas leur cible. Vous avez compris? Il y a deux champs de bataille. Il y a celui de la journée avec les soldats qui se battent contre l'ennemi avec les armes que vous connaissez. Et il y a un autre champ de bataille qui est la spiritualité. L'ennemi font des dua, ils appellent Dieu. Et c'est vrai, vous savez, Salah al-Din, la bataille de Hittin, qui précède la prise de Jérusalem, où il a exterminé l'armée chrétienne. C'est ce qu'a dit Salah al-Din. On ne commencera la bataille qu'à midi, vendredi. Quand les imams seront sur le minbar, et qu'ils feront des dua. C'est-à-dire, nous allons nous battre ici, et eux là-bas, ils nous aident. Et Nourdin Mahmoud al-Shahid et Salah al-Din n'ont pu réaliser ce qu'ils ont réalisé que parce que, ouvrez bien vos oreilles, ils ont investi dans l'éducation et la formation. Ils ont unifié le monde musulman, le Cham, l'Égypte, et ils ont développé l'infrastructure éducative. À travers quoi? À travers l'enseignement de la religion, l'éducation des générations. Parce que c'est un problème de formation et d'éducation. Comment voulez-vous que des jeunes aient pitié des enfants qui sont en Palestine et leur apportent leur soutien alors que ces jeunes n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas d'éducation spirituelle, ils ne savent pas que Dieu va les interpeller en ces termes. Mon serviteur, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Le jour de la résurrection. Et tu diras, Seigneur, comment vous, le maître de l'univers, pouvez-vous avoir faim alors que c'est vous-même qui avez créé la faim? Et Dieu répondra de la manière suivante. Un tel avait faim. Le petit Palestinien que tu as vu à Gaza. Il avait faim. Tu étais au courant. Sache que si tu avais partagé, si tu lui avais donné une partie de ta nourriture que tu jettes à la poubelle, que tu gaspilles, même pas te priver pour lui, consomme intelligemment, tu verras automatiquement qu'il va te rester de quoi le nourrir. Si tu lui avais donné à manger, tu trouverais aujourd'hui la récompense. J'avais soif, Dieu te dira. J'avais froid, j'étais nu. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite, tu ne m'as pas donné à boire, tu ne m'as pas protégé du froid. Et toujours la même réaction de l'être humain étonné. Comment le Seigneur de l'univers peut-il être atteint? C'est pas possible. Et Dieu répondra. Ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient froid, ils étaient malades, ils étaient dans le besoin. Tu savais, tu pouvais, tu n'as pas agi. C'est lui qui n'a pas une force. Spiritualité. Celui qui ne croit pas qu'il va mourir, qu'il va être ressuscité et qu'il aura des comptes à rendre, n'ouvrira pas son porte-monnaie quand il faudra l'ouvrir. Vous entendez? Celui qui ne croit pas au paradis ne réagira pas quand tu lui diras, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui parraine un orphelin sera à mes côtés au paradis comme l'index est aux côtés du majeur. Si vous voulez la proximité du prophète, la proximité, lui coller à la peau au paradis, le meilleur de paradis, le Firdaus, il faut indiquer un ticket, un billet d'entrée. Vous entendez? Qui s'appelle parrainage d'orphelin. Ben, nos jeunes préfèrent acheter des billets pour aller regarder des matchs de foot à 100 euros, 50 euros. Il y en a un jour, il m'a dit, j'ai pris une super affaire, j'ai eu un ticket au Black pour la demi-finale de la Coupe du Monde à 400 euros. Ah, oh, j'avais envie de le tuer. Mon Dieu, 400 euros pour regarder une demi-finale. Au Black en plus, c'est même pas légal. Et demande-lui 40 euros, 10 fois moins, pour un petit Palestinien, c'est ce qu'il va dire. T'es sûr que ça va arriver? T'es sûr que ça va? Si je donne, il va... Vous avez vu? Quand il s'agit de dépenser dans le vide, on dépense avec emprunt, avec plaisir, avec acharnement même. Mais quand il s'agit de dépenser pour la bonne cause, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu d'éducation. Donc, une bonne formation intellectuelle, avec les connaissances qu'il faut de l'histoire, l'histoire ancienne, mais l'histoire contemporaine aussi. Une bonne formation spirituelle pour avoir un cœur sensible. Vous entendez? Il ne croit pas, il ne croit pas, il ne croit pas celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a faim. Et troisièmement, un engagement politique. Parce que la question palestinienne est politique. Elle n'est pas religieuse. Vous entendez? Les musulmans n'ont pas de problème avec les juifs, avec les chrétiens, avec les bouddhistes, les chatoïstes, les homosexuels. On n'a pas de problème avec tous ces gens-là, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, dans les limites de la loi, et chacun est libre de croire comme il veut, puisque c'est Dieu qui a créé les êtres humains libres, il leur a donné le libre arbitre, et il leur a dit, vous croyez pas, c'est votre problème, vous allez juste assumer les conséquences. « Faman sha'a falyumin, wa man sha'a falyakfur. » Nous n'avons pas, nous musulmans, nous n'avons jamais et on n'aura jamais comme projet de faire de l'humanité des musulmans, puisqu'on sait d'avance que c'est peine perdue. Car Dieu dit dans le Coran, et même si tu le voulais, la majorité des gens ne seraient pas musulmans. C'est un décret divin. Vous entendez? C'est un décret, c'est arrêté. On ne peut pas changer ce qui est écrit. La majorité des gens ne seront pas musulmans. Nous n'avons pas de problème de religion avec les autres. Car c'est Dieu qui veut la pluralité des religions. C'est Dieu qui veut que les êtres humains soient divergents, qu'ils croient différemment. Le problème, il est politique. On a envahi un territoire. On a expulsé, exterminé une partie de sa population et on continue à envahir, à expulser, exterminer. Au nom de quoi? Au nom d'une idéologie qui, il y a encore quelques années, était considérée par l'ONU comme raciste. Mais parce qu'il y a eu des pressions politiques, on a fait un amendement. Vous entendez? Le sionisme n'est plus raciste. Il n'a pas changé dans les faits. Mais c'est juste au niveau de la résolution de l'ONU qui a été remodelée. Ainsi, le problème, il est politique. Nous devons faire pression sur qui? Sur les politiques, afin qu'ils prennent des décisions courageuses et qu'ils condamnent et qu'ils volent au secours des opprimés sur terre. Surtout, nous, Français, vous entendez? Quand même, on est connu pour être le pays des droits de l'homme. Et malgré ça, subhanallah, nous avons des gens qui osent. C'est vraiment, il faut avoir du culot, hein, qui osent condamner les Palestiniens, les victimes. Est-ce que vous avez pris contact avec vos députés respectifs? Vous avez tous été déçus par les propos du président de la République sur le massacre de Gaza. Et c'est qu'en France, c'est un régime parlementaire. C'est qu'on a choisi des députés qui sont censés nous représenter et défendre notre manière de voir les choses. Prenez rendez-vous avec vos députés. Allez leur faire part de quoi? De vos sentiments. Ou tout simplement, allez leur faire entendre un autre son de cloche. Parce que peut-être qu'ils ont des informations erronées. Peut-être que d'autres les ont contactés. Allez sur leur site, envoyez-leur des mails. Pour une fois, Internet, il servira à quelque chose. C'est intelligent. Et dites-leur, regardez. Allez télécharger les résolutions de l'ONU. Dites-leur pourquoi vous ne faites pas pression, vous, à l'ONU, pour contacter vos députés. Tiens, c'est bientôt les élections européennes. Oui ou non? Dans quelques mois. Alors, vous connaissez bien la position du Parlement européen. N'ont-ils pas des relations privilégiées? Le Parlement européen n'a-t-il pas décidé de nouer des relations privilégiées? Qu'est-ce que vous allez encore faire? Vous avez encore oublié de vous réveiller le dimanche matin pour aller voter? Parce que ça ne sert à rien, les élections européennes. Subhanallah. Il n'y a que vous qui dites que ça ne sert à rien. Les autres disent tous que ça sert à quelque chose. Et effectivement, ça aboutit. Cette fois, il y a un jeune qui venait qui dit on n'arrivera jamais à résoudre la question palestinienne. Je dis, avec des gens comme toi, t'as raison. Ah, je suis d'accord à 100%. Ah oui. Des défaitistes comme toi, des feignants comme toi, on n'y arrivera jamais. Il dit, que veux-tu qu'on fasse? Je dis, écoute, je vais te donner une petite solution. Fais de la politique. Présente-toi. Deviens un élu, et dans ta mairie, ben, tu proposeras un projet qui s'appelle parrainage. Par exemple, ta ville va se jumeler avec un camp palestinien. Et à partir de ce jumelage, tu pourras réaliser des projets humanitaires. Tu pourras envoyer une ambulance dans le camp de réfugiés. Tu pourras envoyer des tableaux, ils en ont plus, des chaises, des livres. Vous me suivez? C'est pas croyable, subhanallah. Il y a des villes en France qui sont jumelées avec des villes en Palestine. Ben, allez voir le côté positif. Ben, la ville de Lille. Lille, Tourcoing, Dunkerque, et Chapeau, c'est magnifique. Ben, s'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui ont un cœur pour justement développer le jumelage, bah, croyez-moi, c'est des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de Palestiniens opprimés qui ne verraient pas la couleur de toutes ces aides. On peut tous faire quelque chose. Il suffit de savoir pourquoi et comment. Et le minimum que vous devez faire à partir d'aujourd'hui, ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait, c'est de parrainer un orphelin. Vous n'avez pas le droit de ne pas adopter un enfant palestinien. Vous le laissez où il est, mais vous lui donnez de quoi rester en vie. Le minimum, hein, ça va vous coûter 50 euros. Allez au CBST, rue Jules Guesde, allez sur internet, cbst.fr, vous allez voir, parrainage d'orphelin, Gaza, 50 euros, prélèvement automatique. Ouais. N'essayez pas d'envoyer tous les mots parce que vous allez faire trop mal, vous allez arrêter. D'accord ? Prélèvement automatique. Comme pour le téléphone, comme pour Internet. Tu calcules pas, tu cherches pas à savoir. Tous les mois, c'est ton billet d'entrée au paradis. Et il est renouvelé tous les mois. Ouais. Une fois que tu as ton enfant palestinien qui est parrainé, à vie, hein ? Vous entendez ce que ça veut dire ? À vie. Sauf qu'Inch'Allah, la question palestinienne est résolue d'ici 10 ans. Là, vous arrêterez votre parrainage. Mais sinon, à vie, jusque votre mort. Et ensuite, essayez de quoi ? Essayez d'inciter d'autres personnes qui ne parrainent pas à parrainer. Transformez-vous en avocat de la cause palestinienne. Transformez-vous en musulman soucieux d'indiquer aux autres le bien, afin qu'ils le fassent pour que vous soyez vous-même récompensés s'ils le font. Celui qui indique à quelqu'un un acte de bienfaisance aura la récompense de celui qui a fait le bien. Parrainer, inciter les autres à parrainer. D'accord ? Éduquez-vous, formez-vous et incitez les autres à s'éduquer, à se former pour que nous atteignions un degré de conscience humanitaire, politique, intellectuelle et spirituelle qui va nous permettre d'assumer nos responsabilités vis-à-vis des opprimés. Donc on est arrivé à terme en ce qui concerne l'heure, on s'arrête ici. En tout cas, moi je suis très optimiste. Ouais. Car le coup qui ne nous tue pas, nous, renforce. Si dans ces trois semaines passées d'oppression sur le peuple de Gaza, il y a bien des leçons à tirer, c'est que au moins ça nous a rappelé nos devoirs. Qu'on avait tendance à quoi ? À commencer à oublier. Hein ? Le peuple palestinien souffre. Et là, alhamdoulilah, c'est bon, on a repris confiance, mais ce qui serait bien, c'est qu'on ne réagisse pas en fonction des événements, en fonction des médias. C'est que nous ayons une ligne de conduite unique, d'accord ? Pas en temps de scie, ça monte, ça descend. Non, ça monte toujours, Inch'Allah. Allah alam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikoum pour votre écoute et présence. Et aussi merci pour la radio Pastel. Bon, puisque ceci est retransmis en direct. Merci Farouk, merci Abdelkader, Aïssa, Ali, tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que la bonne parole arrive aux oreilles de ceux qui ne sont pas ici avec nous, qui sont chez eux. Jazakumullah khairan. Que Dieu fasse que vos enfants soient meilleurs que vous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va passer directement à la nourriture spirituelle, après cette nourriture intellectuelle, et on va prier derrière nos imams, Inch'Allah, quelques raka'at. Puis, d'être fait dans le Tahas, Inch'Allah, il faut le dire à la raka'at, Inch'Allah. Tahlil. Raka'at, il faut le dire. On va le faire, Inch'Allah.